11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
C'est une balade en France à laquelle nous vous invitons tous les jours de l'été sur RTL. C'est la sixième semaine d'RTL vous régale. En direct jusqu'à midi et demi. Aujourd'hui, direction la Touraine. Ces vins nombreux, ces rayons sont andouillettes au Vouvray, ces poires tapées et tant d'autres choses. Et c'est d'ailleurs à l'évocation de ces petits bonheurs de la table que je vois leurs regards s'illuminer, que des sourires naissants traversent leurs visages. Voici mes partenaires de régalade préférés. À ma droite, Johanna Belmondo.
Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va?
Très bien, et vous?
Oui, super bien.
J'ai regardé le match hier?
Non, l'équipe
italienne.
Oui, je sais, mais bon, vous savez, on travaille un peu.
Et ben, vous savez quoi? Vous avez bien fait de pas regarder. Jean-Sébastien Petit-Demange.
Qu'est-ce qui vous fait penser à la Touraine chez moi, le côté poire tapée?
Non, même pas, non. Vos origines ne sont pas en Touraine, tout le monde le sait. Quoique la poire tapée. Comment ça, mon Jean-Sébastien?
Mais ça va très très bien.
C'est que Louana a pris le large dans le défi frigo hier.
Non.
Il y a des choses qui vous échappent, je sais. Oui. Elle mène désormais 2-1. Et c'est donc une journée.
Vous avez bien intégré le match d'hier.
La notion
soir,
du large.
Ouais. J'ai bien intégré le large, j'avoue. Hein.
Vous savez que tout peut se passer en 2 minutes. On verra ça tout à l'heure. Sur le défi frigo, si elle gagne aujourd'hui, elle gagne la semaine.
Pourquoi 2 minutes? C'était 3 normalement.
Je vous en donnerai même 4 si c'est nécessaire.
Ah, merci.
Le défi frigo, je vous rappelle le principe.
Ah, pardon.
Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et Jean-Sébastien Louena ont 3-4 minutes.
D'accord.
Le temps des infos de midi pour vous proposer une recette à gagner. Une montre RTL, un guide du routard offert par les éditions Hachette. Je vous souhaite bonne chance. Vous jouez avec nous par téléphone 3210 ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre ingrédient au 64 900. Je sais que vous pouvez encore faire tout basculer aujourd'hui, Jean-Sébastien. Je crois en vous. Vous êtes le choupeau moting d'RTL vous régale. Dans un instant, la Touraine. Bienvenue sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Et direction la Touraine, aujourd'hui dans RTL vous régale. Jean-Sébastien, quand on évoque la Touraine, si je vous annonce que nous sommes à Tours et dans sa région, vous allez me dire...
Ah non, jeune homme.
C'est un peu court, je vous voyais venir.
Applaudissements.
Non, c'est vrai que la Touraine, ça n'est pas que Tours, c'est le département de l'Indre-et-Loire. La Loire qui traverse ce département, un peu comme une reine, et qui permet de se rendre vite compte que les rois ne s'étaient pas trompés en venant s'installer ici. Cette région a toujours été considérée comme le saint des saints de l'esprit français. On pourrait même dire le saint des saints de l'archipel français. C'est le fleuve
qui lui donne
une unité, et même si cette unité réside dans son incohérence, parce que la Loire, elle est incohérente par son débit qui a généré des crues mémorables. C'est un fleuve qui change en permanence dans ses paysages. Et même si c'est le fleuve le plus long de France, il y a quelques images comme ça qui naissent. Forcément, c'est une Loire d'hiver aux eaux parfois inquiétantes. C'est une Loire en été aux eaux aussi inquiétantes parce qu'elles peuvent être très, très, très basses et du coup devenir extrêmement paresseuses, rendant impossible toute navigation. C'est les grèves de sable, les îles sauvages qui émergent ça et là au gré du cours du fleuve. Et puis, dans un fouillis de végétation qu'on peut trouver sur les berges, il y a tout un monde secret, une faune abondante, des sternes, des castors, et bien sûr un patrimoine qui s'est posé sur les rives grâce aux hommes qui ont choisi de vivre là-bas. Il y a des châteaux prestigieux, il y a des villes historiques sur les berges de ce dernier fleuve sauvage d'Europe. C'est un ensemble unique, totalement harmonieux, de richesses naturelles dues au génie de l'homme. Évidemment, il y a les châteaux de la Loire dans lesquels les derniers Valois ont célébré les fastes des noces entre la Renaissance et le goût français. Chambord, avec ses 365 clochetons. Chenonceau, le château des dames par excellence. Blois et son Moyen-Âge revu par la Renaissance. Amboise, qui est magnifique, et puis tous les 20 kilomètres, un nouveau miracle qui apparaît, et c'est une gastronomie également, une gastronomie pleine de finesse, où les vins sont plaisants, où les plats sont joyeux, c'est en quelque sorte une cocagne heureuse.
Oh, c'est joli.
Oh, dans laquelle nous allons nous balader aujourd'hui avec immensément de gourmandise.
Et de plaisir.
J'adore.
Louana, quand on évoque les châteaux de la Loire, j'imagine que vous allez vous diriger vers Amboise, naturellement vu vos origines, la plus italienne
des villes du Val de Loire.
Car à Leonardo,
Leonardo da Vinci.
J'ai fait visiter cette ville.
Oui, absolument. En fait, j'ai à chaque fois, j'ai un copain qui m'amène quelque part.
Ben là, c'est Léonard.
Et aujourd'hui, pour la Touraine, je vais à Amboise. Avec qui ? Avec Leonardo.
Vous ne les faites pas, hein ?
Non, mais vous savez, aujourd'hui, on a des techniques pour bien se conserver. Donc, il faut savoir que durant la Renaissance, le château, parce qu'on parle du château royal d'Amboise, attire beaucoup d'artistes qui viennent de toute Europe, dont Leonardo da Vinci. Alors, on est à ce moment-là sous le règne de François Ier et ce grand génie italien passera les trois dernières années de sa vie. Alors, s'il a vécu dans un château voisin qu'on peut visiter, qu'il est très mignon, le Clos Lucé, c'est au sein du château royal d'Amboise, qui est en fait dans une chapelle très jolie, la chapelle Saint-Hubert, qui est en fait, il repose, j'espère, en paix. Alors, la visite du château, elle est très belle. Il y a des salles, plusieurs salles, avec des magnifiques mobiliers d'époque Renaissance française. Après, il y a une vue panoramique, il y a deux tours sur la ville d'Amboise. Mais ce que j'ai aimé le plus...
Le parc ?
Mais oui, les jardins de Naples. On a des pots de terre à cuite qui apportent une touche colorée méditerranée, des allées, des lavandes, des boules de buis parfaitement coupées au ciseau. Il y a des cèpes, des vignes, des arbres, mes arbres préférés, les arbres italiens par excellence, les cyprès, qui seront donnés le bienvenu quand ils sont mis à l'entrée d'une demeure. Et en plus, ici, il y a pas moins de 80 espèces d'oiseaux qui trouvent un abri réconfortant. Donc c'est hyper joyeux, on les voit survoler ce parc. Et donc voilà, on se balade dans cette belle... dans ce beau château, le château royal d'Amboise.
Vous n'allez pas nous dire voilà, que vous n'avez
et
pas une petite adresse à nous donner.
Ah bah, j'ai toujours faim, moi, de toute façon.
Ce serait quoi, par exemple ?
Eh bien, on ne va pas trop loin. Regardez, je ne vous fais même pas marcher. On va vraiment à l'épicerie qu'elle se trouve au pied du château. C'est une ancienne maison à colombage du XIVe siècle. Il y a une terrasse assez agréable. Vraiment, on est bien. La cuisine, c'est une cuisine vraiment traditionnelle. La carte, elle change à peu près entre 3 et 4 fois au fil des saisons. Les produits sont vraiment frais, livrés chaque jour. Moi, quand j'y étais, j'ai mangé une terrine du chef qui était délicieuse. Et puis, la plumade des porcs grillés avec un gratin de pommes de terre, un poêle de champignons. Le service, super. Et à midi, il y a une formule très intéressante à 15 euros. Et le soir, à 30 euros. Attention, les plats sont copieux, donc on peut aussi...
Bon, vous savez quoi, ça nous va bien. Voilà.
Ça vous va ?
Oui, aucun souci.
En général, nous, on a...
Merci pour l'adresse. RTL vous régale.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
On vous emmène en Touraine aujourd'hui avec mes complices jusqu'à midi et demi. On va parler de vin, évidemment, ces vins de Touraine. Et en préparant cette émission, on voyait Jean Carmet qui, à l'époque, évoquait ces vins de Touraine qui le réveillaient le matin avec
Bourgueil,
un petit pot de rillettes et notamment les Saint-Nicolas de Bourgueil. 23 AOC en Touraine, c'est énorme.
C'est qu'il y a quelques histoires autour de Jean Carmet, Jean Bardet... Gérard Depardieu.
Que nous n'évoquerons pas dans cette émission, car ce n'est ni l'endroit, ni l'heure.
Quelques anecdotes assez copieuses. Alors, les vins de Touraine, il y a 23 AOC, effectivement. Vous savez que c'est ahurissant, les vins nigériens, parce que quand on va de jusqu'à Nantes, jusqu'au vignoble nantais et les muscadets, sur tout le cours de la Loire, on a plus de 80 AOC qui émaillent comme ça le cours de ce fleuve. Et la Touraine, avec ses 23 AOC, offre des vins, qu'ils soient blancs,
rouges ou rosés, qui sont d'une belle finesse, d'une élégance assez rare. Les Vouvray, par exemple, sont l'apanage des vins blancs de Touraine. Ensuite, vous avez les Cheverny, plus modestes, ce qui font néanmoins une percée remarquable sur le marché du vin depuis 10-15 ans. À l'instar de ces Vouvray, vous avez Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont les étoiles des vins rouges dans des vignobles qui sont magnifiques. Rabelais vantait déjà les mérites du Chinon au XVIe siècle à travers les exploits de Pantagruel. Le vignoble qui s'étend sur 4000 hectares avec des limites qui sont redéfinies en fonction des remembrements. Et c'est porté par des sols qui sont variables de constitution, mais en règle générale, c'est plutôt du calcaire. Beaucoup, les climats de ce terroir sont également très variables, mais largement influencés par l'océan qui apporte du coup une douceur. Le vignoble qui produit autour de 250 000 hectolitres. Alors, ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais c'est quand même un des vignobles importants en France. Au niveau mondial, c'est beaucoup moins important que ça ne le représente. Alors, on a quelques cépages classiques. Vous avez du Chenin, bon, c'est le plus beau cépage du monde, évidemment. Et du Chardonnay pour les blancs, les Gamay, les Cabernet Franc, le Pinot Noir pour les rouges et les rosés. Tout ça donne des AOC qui sont très typés, qui sont très variés. Si on plonge dans le Chinon, on est dans des vins, vous savez qu'on définit, en gros, les vins de Loire se définissent par des vins de gravier, avec des sols de sable et de gravier, des vins de tuf qui sont plus des sols argilo-calcaires sur les coteaux. Et du coup, on a à chaque fois des vins qui sont à double lecture. Chinon, alors c'est les plus charpentés, c'est les plus puissants, c'est les vins rouges colorés qui ont un bon potentiel de garde, comme disait Jean Carmé. C'est un vin.
Il a de l'avenir.
Exactement. C'est des vins qui sont très fruités. Les Chinons, que moi personnellement j'aime beaucoup. Cheverny, c'est un vignoble qui est au sud de Blois. On est dans des vins plus légers, plus fins, plus fruité. Bourgueil, bah c'est le terroir de Carmé. Là, on est à 50 km à l'ouest de Tours. C'est 80% de vin rouge, le Bourgueil. Et puis, il y a Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. On dit que les Saint-Nicolas sont des vins qui sont plus dans la finesse, qui des vins très couleurs. Ils ont une pourpre assez marquée.
C'est quoi la différence entre un Saint-Nicolas-de-Bourgueil et un Bourgueil ?
Ah bah c'est une différence de terroir, vous voyez.
Tout simplement ?
Vous avez Saint-Nicolas-Bourgueil qui est à 50 km à l'ouest de Tours. Saint-Nicolas-de-Bourgueil est encore un petit peu plus loin, juste à côté. C'est les vins. Les spécialistes, enfin Carmé par exemple, disait que le Saint-Nicolas-de-Bourgueil était plus fin, était un vin plus velouté que le Bourgueil.
Enfin, il a aussi dit « je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin
». Oui.
Il n'arrive peut-être pas tard.
Il a même ajouté « la seule arme qui m'intéresse, c'est le tire-bouchon ». C'est vous dire, il en connaissait un bout sur la chanson.
Ce garçon avait raison. Et puis bon, il y a Vouvray qui est quand même... Un vin absolument magnifique qui donne des demi-secs, qui donne des vins moelleux. Il y a toute une gamme de vins absolument. Les effervescents sont remarquables. Je suis désolé. Hein, c'est-à-dire que le jour où les Italiens sauront faire du Prosecco comme on sait faire du Vouvray...
C'est une attaque en règle, ça.
On est à
plus d'une demi-heure du défi.
Allô,
frigo. Et
on est toujours en direct.
Ça commence à tirer à balles réelles.
Je suis désolé, le Prosecco n'est pas du vin. Il faut être clair. C'est un espèce de
attention,
jus de raisin.
Non, mais le Prosecco, c'est du Prosecco.
C'est du Prosecco.
Ça n'a pas d'autre ambition.
Ça
n'a pas d'autre ambition, on est d'accord.
C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Sauf que le marketing est en train de nous faire croire aujourd'hui qu'on est limite à deux doigts du champagne.
Non, mais ça, c'est le marketing parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de cocktails qui sont faits à base des Prosecco.
Oui, le Spritz.
Et en fait, on tue en fait ce prosecco qui ne demande rien d'autre que d'être un simple prosecco.
Ces vins de Touraine, justement, Louana, est-ce que ça vous inspire pour votre cuisine?
Alors, en cuisine, on utilise toujours les vins, mais ce qui m'inspire, en fait, c'est les moelleux de Vauvray. J'imagine bien une bonne recette des volailles. Alors, on prend
ce serait quoi?
On va la farcir, on fait en farce avec de la viande de porc. Si on a du pain rassis, on va le réhydrater dans un petit peu de bouillon, pas de lait. On va rajouter, on mélange ça, la farce de porc, le pain qu'on va émietter, des poires tapées, parce qu'on sait qu'il y a la poire tapée, ça fait partie du terroir des Touraines. On va les couper un petit dé. On va rajouter aussi des noix concassées. On sait aussi qu'il y a...
Poire et noix, ça marche. Hein.
Ça marche bien. Et en Touraine, en plus, il y a l'huile de noix qui est délicieuse. Et le tout, on va l'accompagner justement de cette sauce à base de vin de Vauvray. On fait juste revenir des échalotes. Et attendez, on va rajouter de la crème liquide qui, dedans, on va mettre du safran.
Ah ouais.
C'est-à-dire dans la crème, le safran, parce qu'il y a une production de safran aussi. Donc j'aime bien la Touraine, elle est un peu comme l'Italie. Donc on fait cette sauce, on fait revenir des échalotes dans du beurre, on les déglace avec du vin de Vauvray qui est très bon, moelleux surtout. On rajoute la crème infusée safran et une fois que notre volaille est bien cuite, on la serve en coupant la farce et en la nappant de cette sauce
en toute simplicité.
Au Vauvray et safran.
Et voilà, une volaille de Touraine cuite avec cette farce de porc, poire tapée, petit dé de noix, sauce à base de vin moelleux de Vauvray.
Pas mal, non ?
Vous avez improvisé, vous avez vraiment improvisé ou c'est, vous avez dormi là-dessus, comme on dit ?
Non, j'ai passé 3 ans de ma vie à étudier cette recette.
Les amis, que va-t-on rapporter de notre périple en Touraine ? Évidemment, de l'Ariette. Mais pas que, on vous en parle dans quelques instants sur RTL. Ce sera juste après Christophe Maé. C'est ça aussi, la vie d'artiste. RTL vous régale tous les jours de l'été, 11h, midi et demi sur RTL.
11h, 12h30. RTL vous régale.
Le rendez-vous de la régalade quotidien sur RTL, c'est en Touraine que ça se passe aujourd'hui. Et nous allons évidemment vous dresser une liste, certainement pas exhaustive, de ce qu'il faut rapporter de Touraine.
Très
alors,
diététique.
Moi, je vais être très honnête avec vous, les copains. C'est vrai que quand on parle de rillette, spontanément, je pense plutôt à la rillette du Mans, de la Sarthe. Et je pense moins à la rillette de Touraine. Alors que pourtant.
Et pourtant, c'est quand même bien meilleur. Voilà, comme ça, je suis.
Voilà, comme ça, vous faites de nouveaux amis dans la Sarthe.
Donc là, je viens de me faire interdire de séjour.
Voilà. Vous embrasserez Henriette.
Non, mais c'est vrai. En gros, la rillette de Tours, qui est une indication géographique protégée, elle est moins hachée. Elle est moins grasse que les cousines du Mans. D'ailleurs, faut savoir quand même que la Touraine est la région d'origine de la rillette pure porc. C'était quand même une histoire qui remonte au 15e siècle. C'est la seule à bénéficier d'une IGP. Elle est plus dorée que la rillette du Mans. Elle a une texture qui s'effiloche plus. Elle est en plus aromatisée au Vouvray. Et ça se dit, c'est un bonheur parce que la rillette du Mans, on est obligé de la tartiner s'il faut absolument la mettre sur du pain. La rillette de Tours, c'est bien parce que vous prenez la fourchette dans le pot.
Manger
comme ça. Il y a le pendant de la rillette qui est le rillon qui se prépare là du coup à partir de cubes de porc décoinés et puis on cuit ça en même temps. Et en fait, les rillons, ils sont cuits en même temps que les rillettes, mais on les retire, ils sont séparés à la fin de la cuisson. Et alors, quand vous prenez l'autre spécialité qu'on met dans le coffre, vous prenez de la foisse ou de la fouet, et vous, c'est ces deux recettes boulangères qui datent du Moyen Âge.
C'est quoi
Rabelais en parle dans Gargantua. En fait, c'est les restes de pâte à pain qu'on jetait au four pour vérifier la température du four avant de cuire le pain. Donc c'est en fait c'est
ça comme gonfle un peu.
Voilà,
hein.
C'est un peu du panini moyenâgeux.
Là, par contre, ça ne dérange pas de faire une référence à la cuisine italienne.
Non, ça ne dérange pas parce qu'on glisse dedans de la bonne rillette. Voilà. Je peux vous dire que c'est un pur bonheur.
C'est pour imaginer ce que vous connaissez, Jean-Michel.
Le mauvais camarade. C'est terrifiant. Qu'est-ce qu'on y met dans les rayons?
Sébastien qui est derrière la console, quand je lui parle de foie sous de fée, il a le sourire parce qu'il sait tout de suite ce que c'est.
C'est normal, il est de là.
Eh ben oui.
Voilà.
Et alors, c'est des petites boules de pâte à pain comme ça qui gonflent, qui sont cuites. Quand c'est tiède, vous mettez comme ça.
Du fromage?
Vous mettez des
rillettes. L'arriette.
Vous mettez de l'arriette du Mans à l'intérieur comme ça.
Aussi du sang mort, c'est pas mal.
Oui, mais c'est. Là, quand c'est froid, quand c'est fouette.
Non,
par contre, les rillettes, vous voyez, c'est comme c'est un peu gras. Ça fond gentiment, ça se répand à l'intérieur, ça coule à l'intérieur du pain, ça imbibe. C'est machin. Du coup, vous croquez dedans, ça vous bave dans la barbe. Mais c'est un pied total, ce truc. C'est un bonheur absolu.
Alors, plus je vous regarde, plus je vois que vous avez des restes. Hein.
Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est de manger une fouasse.
Non, je ne peux pas.
À la rillette de Tours avec un verre de Saint-Nicolas de Bourgueil ou un verre de Vouvray. C'est un truc qui vous approche du paradis, ça.
J'ai une andouillette pour M. Petit Demange.
Ben oui.
Ça vous dit?
C'est bien. C'est bon.
J'ai une collection de photos dans mon portable de cet homme mangeant des andouillettes partout en France.
Ouais, c'est vrai.
En 10 ans, je dois avoir autant de photos que de villes de France traversées.
C'est pas une andouillette au Vouvray, c'est une pure merveille. C'est aromatisé, c'est cuit dans un bouillon aromatisé au Vouvray. Puis alors, après, vous faites griller ça au barbecue, mettez ça au four, une petite sauce. Une moutarde à l'ancienne, comme ça. Une petite sauce crémée au Vouvray aussi.
Vous savez, nous, on s'est contente de peu, mais des bons.
Alors vous allez faire un truc délicat. Vous allez mettre dans le coffre de la voiture des macarons.
Oui, les macarons des Cormery.
Je pensais qu'on allait passer où? C'est qu'on allait mettre du fromage.
Non, je l'ai épargné parce qu'il faut savoir que Jean-Michel Zeka n'aime pas.
Le fromage,
à chaque fois, fâchez avec moi parce que vous dites que je ramène trop de fromage.
Non, c'est pas ça. Après, j'ai dit que le fromage ne se met pas dans un coffre en pleine canicule.
On a choisi donc l'andouillette que vous n'aimez pas, donc il fallait faire un choix. Cette fois-ci, on a choisi de mettre l'andouillette. Et je vais être tout en douceur avec vous, donc je vous ramène des macarons de Cormery. Alors c'est hyper simple, c'est 3 ingrédients: blanc d'œuf, sucre, amandes.
Macarons.
C'est tout.
Souvent.
Mais alors, ils sont produits qu'à Cormery.
D'où le nom.
Et alors, c'est l'histoire qui m'intrigue. C'est qu'il paraît que cette recette a été mise au point par un homme qui, après une déception amoureuse, serait devenu moine, justement, dans l'abbaye de Cormery. Mais il aurait gardé sur lui quand même son anneau de fiançailles. Et un jour, en passant en cuisine, en goûtant la préparation de ces macarons, l'anneau tombera dans l'appareil. Et là, ça inspira le chef de faire cuire ce petit gâteau à forme d'anneau. Comme quoi, parfois, les déceptions amoureuses réservent toujours une jolie surprise pour nous.
Vous savez quand même que l'essentiel du macaron de Cormery, c'est le père, l'ancêtre de tous les macarons, parce que c'est quand même un macaron qui date du 8e siècle.
Mmh. C'est très très bon en plus. Alors après, ça on le mange sur place, alors on s'arrête à la première aire d'autoroute parce qu'on amène
c'est notre spécialité.
Le Balzac.
C'est quoi le Balzac?
Alors, le Balzac, alors il faut savoir le fameux écrivain Honoré Balzac était né en Touraine. Et en 2019, pour le 220e anniversaire de sa naissance, les pâtissiers tourangeux ont mis au point un gâteau, alors qu'il est pas mal inspiré du Saint-Honoré, qui est fait par contre à base de la boisson préférée de l'illustre homme des lettres, le café. Alors c'est un biscuit croquant au cœur d'entremets, un décor avec des choux, des farcis à la crème, de la crème chantilly. Après il y a les saveurs de chocolat qui se mélangent avec de la vanille, du caramel et du café. Et olé olé, c'est trop bon. Donc je trouve que ça, on le mérite après toute cette balade. On le mange, on s'arrête un peu. Je sais pas.
Il me reste un peu de place dans la boîte à gants. Est-ce qu'on y mettrait du nougat?
Moi j'ai délaqué, oui.
Le nougat de Tours qui n'a rien à voir avec le nougat qu'on imagine à Montélimar. Ça n'a absolument rien à voir, c'est un gâteau. C'est un gâteau absolument magnifique qui remonte à la fin du Moyen-Âge. Et c'est un gâteau, ce qu'on appelle un gâteau de voyage. gâteau dans lequel on trouve des amandes, des fruits confits, que ce soit des prunes, aujourd'hui on peut y mettre des abricots, c'est conservé dans des boîtes, c'est comme c'est très sucré, ce nougat tour est particulièrement propice au voyage, il ne rassit pas, il ne rancit pas, et ça fait partie de ces gâteaux absolument magnifiques. Il y a un autre gâteau qu'il faut goûter à Tours, c'est la brioche de la briocherie Le Long, qui est juste en face de la gare de Tours. Je ne connais pas un étudiant à Tours qui n'arrive à Tours le dimanche soir en sortant de la gare de Tours, ou qui ne remonte dans le train en partant le vendredi sans passer par chez Le Long pour prendre une brioche. C'est un truc traditionnel, comme c'est pas permis. Et la dernière chose qu'il faut goûter, absolument, peut-être pas rapporter, mais goûter, c'est la Bechel Tourangelle. Ça, c'est un truc de dingue. Vieille recette venue de Vienne.
C'est une soupe ?
Non, c'est plutôt une, c'est plutôt un vol au vent. En fait, c'est un ragoût de rognon de veau paré, émincé,
bon.
Avec des riz de veau blanchis, escalopés, cuits à l'huile d'olive, au beurre, avec des champignons flambés au marc de Coteau de Loire, beaucoup de crème, vous faites...
Des pâtes feuilletées par-dessus.
Voilà. Et c'est un truc, et je vous dis, ça vient de Vienne, ça a été adapté à la Touraine, et ça fait partie des merveilles totales, quoi.
On est bien, hein, on a du fromage, on a des macarons, on a de la Bechel.
On l'a effleuré.
Hein, je peux changer la suspension de la voiture, hein, je vous le dis franchement.
Très bon,
il va falloir faire gaffe à un moment donné. Des rillettes, des rayons, je ne suis pas persuadé qu'on passera les douanes un jour avec ça.
C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir ouvrir un commerce.
C'est l'esprit d'RTL vous régale. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur RTL.
11h, 12h30. RTL vous régale.
Ma chère Luana, si je comprends bien, nous aurons eu droit aujourd'hui à deux recettes de volaille,
oui.
Puisque nous sommes en Touraine, c'est une bonne idée.
Oui.
Celle-ci est
je
pas mal.
Je peux poser une question.
Allez-y, franchement.
Juste une chose. Depuis quand vous vous prenez pour Eric Jean-Jean et vous croyez d'être au Grand Quiz? Parce qu'à chaque fois, vous me dites 2 minutes.
Ah non, mais c'est...
On a une question.
Je gère le timing.
Ah d'accord. Alors, en 2 minutes,
et là, vous
on va faire...
Vous venez de perdre 40 secondes.
Alors,
allez-y, on vous écoute.
On va faire une recette hyper simple, mais un peu étonnante, parce que je suis fière d'avoir mis au point cette recette. On va faire une géline en croûte de pain des pommes de terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va préparer notre croûte de pain. On va incorporer de l'eau tiède à de la farine, tout doucement. Et on rajoute des flocons des pommes de terre. On les trouve partout en grande surface. Donc, vous voyez, c'est une recette très ménagère.
Ce n'est pas comme la poudre de sèche.
Non, des cèpes. Donc, on rajoute le flocon des pommes de terre. On travaille tout doucement. Donc, on a l'eau tiède, la farine. On rajoute du beurre fondu, du sel. Et vous allez avoir une pâte que vous allez pétrir à peu près avec la main pendant 5 minutes. Vous verrez, il faut qu'elle soit compacte mais élastique. Vous la laissez reposer une trentaine de minutes à température ambiante. Vous mettez juste un torchon par-dessus. Pendant ce temps-là, vous prenez votre géline, vous la salez, la poivrez partout, même à l'intérieur. À l'intérieur, on va glisser du romarin, de l'ail, si vous voulez, du thym. Moi, je rajoute toujours aussi des quartiers d'agrumes. Et après, là, elle est prête. On va juste abaisser la pâte. On fait un disque d'une épaisseur plus ou moins de 400-500 cm. On va poudrer la pâte et tout doucement on va rouler. En fait, il faut qu'on emballe la géline à l'intérieur sans déchirer la pâte surtout. On va la disposer sur une plaque. Alors, mon conseil, c'est de chauffer la plaque avant, c'est-à-dire dans un four à 180 degrés sur la plaque que vous allez cuire votre géline. Vous la faites chauffer de façon que aussitôt que vous posez votre volaille dans sa robe, elle est saisie.
D'accord.
En tout cas, le bas est saisi. Pour que ça soit une pâte assez moelleuse, parce qu'on va la manger cette pâte, parce qu'elle est délicieuse, c'est pas une croûte de sel, c'est vraiment une pâte à pain à la pomme de terre, vous rajoutez un bol d'eau. et vous laissez cuire pendant, ça dépend du poids de votre volaille, mais 1 heure et demie, 2 heures à feu à 180 degrés, pardon. Chaque fois que l'eau diminue, rajoutez-la parce qu'on a un côté croquant, mais il faut que ça soit moelleux. C'est tout. On va casser la croûte. On va déguster la geline avec son pain des pommes de terre. Et après, moi, normalement, je l'accompagne avec une sauce avec, que je prépare avec de l'estragon. Je mets du fromage blanc que je vais monter avec de la moutarde et de l'estragon.
Tout simplement. C'est pas mal votre truc. Ouais, ça
et ce qui est bon, c'est vraiment ce...
Après, techniquement, emballer la volaille dans cette pâte, c'est le geste le plus technique de la recette, finalement.
Bah, vous commencez, en fait, vous faites un disque, vous la mettez, disons que la poitrine, vous la mettez vers le bas, vous fermez. Et c'est tout. Non, c'est pas plus difficile qu'un pâte à modeler.
Je vais être honnête, je connaissais pas la géline, qui est une ancienne race de poule.
Vieille race de poule tourangienne qui a été sauvée. Ça fait partie des races rustiques comme la poule de Barbezieux quand on est en Charente, et c'est extrêmement soyeux, c'est très très fin, c'est une très belle race qui fait bon à avoir sauvé.
Dans un instant, la surprise du chef dans RTL vous régale.
Retrouvez ma recette sur la cuisine AZ.
Bien sûr, nous évoquerons les fameuses poires tapées. J'en sais, pour faire des poires tapées, il faut...
Des poires.
Et il faut se les taper. Allez, à tout de suite, ce sera juste après Sia sur RTL.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
La surprise d'RTL vous régale, comme chaque jour. Nous sommes en Touraine aujourd'hui et évidemment, nous allons vous parler des poires tapées. On va faire ça vite fait. Et nous allons en profiter aussi pour réparer...
Ça tombe bien parce que ça ne se fait pas vite fait.
Bon, ça ne se fait pas vite fait, mais c'est pour ça qu'on va aller vite. Nous allons réparer une injustice aussi.
Ah oui.
Car depuis le début de l'été, je ne me souviens pas avoir cité la Quintini.
Mais il l'a pas cité.
Pas une seule. Nous allons donc. Voilà, nous allons donc permettre à Jean-Sébastien de rendre un vibrant hommage.
Absolument, parce que si la poire est un fruit qui vient d'Inde, comme souvent, ça vient souvent d'Inde, d'Asie, eh bien, la France connaît la poire pour la première fois à partir du XVIe siècle.
Mais le jardinier de Louis XIV.
Louis XIV demande à son jardinier préféré de lui en cultiver et de mettre au point plusieurs espèces. Le jardinier préféré de Louis XIV était bien évidemment la Quintini, et ce brave la Quintini, dans son potager du roi, met au point plusieurs espèces de poiriers, et au fil des siècles, les variétés se sont multipliées. En attendant, c'est un fruit exceptionnel, gorgé de sucre lent, gorgé de vitamines, gorgé de fibres, et les poires tapées, c'est une recette qui vient de loin, c'est une vraie méthode de conservation, et non pas de conversation, enfin, d'ailleurs, quand sécher des fruits, ça permet de converser pendant qu'on les conserve. Et nous allons partir pour Rivarennes,
pour converser.
Capitale de la poire tapée.
Pourquoi taper, au fait ?
Nous allons le savoir. Bonjour, Christine.
C'est ça la question, évidemment.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Christine de la Maison Hérin, à Rivarennes, justement. Est-ce que vous pouvez répondre à cette interrogation qui est la mienne ? Pourquoi taper ?
Alors pourquoi on tape les poires ? Alors je vous rassure, c'est surtout pas pour leur faire du mal, c'est au contraire pour les conserver. Mmh. Donc en fait, on les tape pour chasser l'air qui se trouve dans le cœur du fruit au niveau des petites carpelles où se trouvent les pépins.
Ah d'accord.
Tout simplement parce que la poire tapée, donc c'est un fruit qui est déshydraté. Et à partir du moment où il reste un petit peu d'air dans un aliment, le produit peut se conserver mais risque de s'altérer. Donc voilà. Surtout pas droit à l'erreur. Donc c'est pour ça qu'on tape les poires une par une.
C'est une méthode qui vient du fond des âges, si je puis dire.
Ah oui, bien sûr. La déshydratation date du néolithique, c'est le soleil. Donc c'est vrai que nous, en Touraine, on ne pouvait pas déshydrater au soleil parce que on est beaucoup trop en latitude. Le fruit est gros et la maturité des pommes et des poires, c'est l'automne vers l'hiver. Donc il n'y a pas eu plus tout de soleil pour déshydrater au sol. Il n'y a plus assez de soleil pour déshydrater avec cette méthode-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont installé la déshydratation dans des fours à bois, des fours à pain.
D'accord. Et qui se trouve sur un site assez joli puisque vous êtes dans un endroit de troglodytes.
Oui, c'est un site troglodytique. Donc on a 13 troglos les uns à côté des autres où se trouvent 3 fours à poires tapées.
C'est ça, d'accord.
Ouais,
il faut les déshydrater pendant 3 jours.
Des fois, c'est plus long.
Ouais.
On compte à peu près... Alors déjà, la première étape, c'est d'éplucher les poires. Mmh. Et une fois que les poires sont épluchées, on les installe sur des grandes clés en bois. Ouais. Et la déshydratation dans les fours à bois va durer à peu près entre 100 heures, 120 heures.
Parce que, en fait, c'est très technique, parce qu'il faut quand même... Vous les mettez dans des fours, mais il ne faut pas qu'elles cuisent. Il faut juste...
Ah bah non, surtout pas qu'elles cuisent.
C'est ça la difficulté du truc, absolument.
C'est ça tout le challenge, comme on dit.
Oui, absolument. Christine, on fait un million de choses avec ces poires tapées. Hein. On les affine avec des eaux de vie, on les utilise en cuisine aussi.
Oui, tout à fait. Ouais, à la maison, nous avons toute une gamme de plats cuisinés, de terrines. On a de l'apéritif et puis on a par exemple du caramel de poire tapée. On a des poires tapées dans un gamay de Touraine qui vient de la commune parce qu'à la maison, on aime bien faire au circuit court. Hein. Donc, qui vient du domaine Pagé et à côté de la maison. Donc, il y en a qui vont très bien pour accompagner des viandes rouges. Après, très bien avec du sucré et de la cannelle pour les desserts. On a de la William, des réhydratés au Vouvray moelleux pour des foie gras, des chèvres chauds, des sorbets. On a avec du thé et du miel, et c'est du miel qui arrive des vergers de la maison. On a au sirop, on a l'eau de vie, et l'eau de vie, c'est bien sûr l'eau de vie de poire des vergers de la maison.
Christine.
Ouais, on essaye de faire plein de choses et bien.
Vous les vendez bien, en tout cas. ça s'appelle une ambassadrice, voilà.
Ça fait très longtemps, ça fait 25 ans que je fais ça, et je trouve que c'est un très, très, très joli produit.
Et vous le faites très bien.
Histoire.
Vous avez bien raison. Christine Hérin, la maison Hérin, à Rivarennes, les poires tapées, et on précise que vous maîtrisez tout, hein, de la production donc des vergers jusqu'à la commercialisation de tout ce que vous venez de nous expliquer. On vous embrasse, on vous souhaite un délicieux été, bon mois d'août. Dans un instant, le défi frigo d'RTL vous régale.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Nous allons filer en Isère où Didier a de la Guinness dans son frigo. Voici l'objet du défi de ce midi. Jean-Sébastien Petit-Demange, Loana Belmondo. Quelques minutes pour deux recettes. Vous écoutez RTL, il est midi.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Il est l'homme du défi frigo ce midi sur RTL. Didier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans RTL vous régale. Vous êtes aux Abrets en Dauphiné, c'est ça, hein?
Oui, mais je suis né à Tours.
D'accord. Ah bah voilà. Voilà.
Magnifique.
Est-ce qu'on vous a appris des choses aujourd'hui, vous qui êtes originaire du coin?
Non. Oui, la foi, c'est puis la genre de vol au vent.
Ah, la bechelle que j'ai confondue avec une soupe. C'est vous dire, moi qui ne suis pas de Touraine, qui suis d'origine belge, je le rappelle, je ne savais pas, je suis franchement flatté qu'un tourangeau ne sache pas non plus de quoi il s'agissait.
Je pense qu'on ne connaît pas tout.
Bien sûr. Par contre, vous avez de la Guinness dans le frigo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Disons que ça fait 2 années de suite qu'on va en Irlande et je suis tombé amoureux de ce pays. Alors, j'adore déjà la bière, déjà. Et forcément, je suis tombé dans le bon pays.
Ah. Alors, de la Guinness.
Quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé sous le charme.
De la Guinness pour cuisiner, c'est pas une mince affaire. Alors, on va sans doute. Est-ce qu'ils vont céder à la facilité? Parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne connais pas la nature de leur recette, mais est-ce qu'ils vont céder à la facilité qui consisterait à faire des plats mijotés dans de la bière, en l'occurrence de la Guinness?
Pas du tout.
Je m'attends à beaucoup mieux de leur part.
Mais arrêtez ce regard.
Vous avez cette pression qui s'installe. On commence avec qui, Didier?
Eh bien, on est aux dames avec Loana.
C'est parti.
Très bien, Didier. Alors, écoutez, moi, je vais faire des travers des porcs. Mais en fait, vous verrez, on va faire deux recettes dans une. Alors, on va prendre... vous aimez les travers des porcs, j'espère?
Oui.
Oui, bon, tant mieux, ça tombe bien. Alors, vous prenez vos travers des porcs, vous allez un peu les saler, les poivrer et vous les faites revenir dans un poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Il faut juste qu'elles brunissent, il faut juste les saisir, il ne faut pas les cuire complètement. Après, vous débarrassez et vous les laissez de côté sur un plat que vous couvrez avec du papier aluminium, de façon que la viande va se détendre un peu. Dans la même poêle, vous faites revenir des carottes hachées, des oignons. En ce moment, il y a les oignons frais. Vous savez, avec les tiges vertes, vous gardez tout, la tige et tout. Vous allez hacher tout ça aussi. Moi, je mets aussi une branche de céleri que je vais hacher. Si vous aimez, mais c'est pas obligatoire, je vais râper un peu de gingembre frais. Je fais juste revenir pendant 2-3 minutes. Et là, c'est dans un, avec un feu moyen. J'émonte la flamme et là, j'émets votre bière. Et je déglace le tout à la bière. Alors, il faut savoir que cette bière, c'est une bière brune. Elle va un peu caraméliser, en fait, le fond de la viande. Elle va caraméliser aussi le goût des légumes. Je rajoute un petit peu de concentré de tomates pour donner de la couleur, du thym frais, si vous aimez, ou du romarin. Je couvre et je fais revenir. En fait, je suis en train de préparer une sauce. Je fais revenir pendant 5-6 minutes. À ce moment-là, je prends mes petites travers des porcs que je vais mettre dans un plat qui va au four. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je les mets et je les nappe avec cette sauce qui a un goût esquis parce que quelque part il y a un amertume de cette bière, mais qu'on va en plus on va le réveiller et l'aménager avec de la douceur donnée par la tomate, par les carottes, par les légumes. On va les mettre, donc on va napper de la sauce notre viande. On la fait cuire au four une heure, pas plus. On les sort comme ça. Elles vont être complètement, c'est une très bonne marinade. Et ce que j'ai fait moi, c'est que pendant que la viande cuit, je vais cuire des spaghettis. Et au moment qu'on passe à table, je débarrasse donc les petites travers des porcs dans un plat. Bien sûr, il y a de la sauce. Et dans la sauce restante,
vous avez fait réduire cette sauce ou pas?
La sauce est réduite avant et puis elle continue à cuire après. D'accord. Mais dans la sauce, donc j'ai le goût de la sauce que j'ai préparée, j'ai le goût des petits travers des porcs, je fais sauter des spaghettis dedans et je peux vous dire qu'un accompagnement, c'est une tuerie.
Donc vous faites sauter des spaghettis dans un fond de sauce à la Guinness et au concentré de tomates.
C'est super bon, ouais. Ah. Oui, mais vous avez aussi le goût des travers des porcs. Je vous ai surpris déjà l'autre soir.
Non, mais vous êtes pleine de ressources. Non, mais j'aurais pas pensé, parce que quand vous annoncez concentré de tomates dans de la Guinness, c'est vrai que ça peut surprendre.
Parce qu'en fait, le concentré de tomates va casser cette amertume.
Didier.
Voilà. Déjà. Bon. Avec la Guinness, on peut tout mettre, ils en font bien au chocolat.
Ouais, c'est vrai. Des gâteaux, d'ailleurs, on fait pas mal de gâteaux avec.
Bon, des travers de porc à la Guinness.
Gâteau au chocolat.
Original. Il y a match, elle mène 2-1. Jean-Sébastien a la possibilité d'égaliser.
On va faire un barbecue ensemble, Didier. Ça va. Et effectivement, on va faire je vais pas vous faire une recette de mijotage parce que c'est pas du tout la saison.
Oh là là.
Non, mais vous allez prendre une belle côte de bœuf. Une côte de bœuf. Pourquoi pas une côte de bœuf d'Angus pour rester dans la région irlandaise, et on va la mettre sur le barbecue, surtout si vous avez un barbecue à l'américaine.
On va la saisir.
Qui se referme, vous pouvez le saisir au barbecue, et puis ensuite il faut le faire
sous couvert.
La côte de bœuf finisse de cuire à couvert tranquillement pour qu'elle reste. Et puis pendant ce temps, on va faire la sauce. La sauce, vous allez prendre des oignons que vous allez couper en rondelles. Ces oignons, vous les mettez dans une poêle et vous les faites cuire à sec, sans aucune matière grasse. Vous les laissez rejeter le rôde végétation et dès que ça commence à brunir, vous allez déglacer les oignons avec un peu d'eau. Là, ils vont compoter doucement, sans rien d'autre que de l'eau et des oignons. Une fois que ça a compoté, vous rajoutez un peu de sucre et vous laissez caraméliser doucement ces oignons. C'est là qu'intervient la Guinness. Une fois que tout est sec et que c'est caramélisé, vous mettez une bouteille de Guinness là-dedans et vous faites réduire de moitié cette sauce qui va devenir oignon Guinness. Tout ça va compoter tranquillement. Vous ajoutez un peu de Worcestershire sauce dans votre mélange. Ensuite, une fois que tout ça est bien cuit et que les oignons sont bien moelleux, vous faites épaissir avec une petite cuillerée à soupe de maïzena, de fécule de maïs, et vous allez faire briller cette sauce avec 15-20 grammes de beurre en toute fin de cuisson. Vous avez votre côte de bœuf pendant ce temps qui a cuite. Vous allez sortir la côte de bœuf, vous la tranchez et vous avez cette sauce Guinness oignon que vous allez répandre sur votre côte de bœuf. Vous ajoutez un peu de fleur de sel, éventuellement un peu de poivre, mais très peu parce que je trouve que le poivre et la Guinness, ça va pas très très bien ensemble. Mais fleur de sel sur la côte de bœuf, la sauce. Et puis à côté de ça, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous faites quelques pommes de terre qui vont cuire en papier d'alu dans le barbecue. Puis vous avez des potes. Et puis c'est bien, c'est la vie.
Didier, je vais vous
et
dire.
Puis, voilà. Avec ça, bah, qu'est-ce qu'on peut boire une Smithwick,
par exemple.
Par exemple.
Et on a deux recettes pour le coup extrêmement originales et avec des approches différentes. J'aime bien l'idée. Moi, j'ai l'impression, parce que là, il y a vraiment match. Parlant de match, j'ai le défi frigo à côté, Bergam PSG, c'est un pensionnat pour jeunes filles, je vous le dis franchement. Aujourd'hui, c'est 2-1 pour Louana. Si l'autre égalise, c'est la guerre dans ce studio. Et c'est vous qui allez emporter la responsabilité, Didier.
Pas de souci, je vais être assez large, c'est bon. Eh bien, écoutez, je vais choisir Jean-Sébastien, parce qu'il m'a pris les oignons et puis les côtes de bœuf, c'est déjà tout ce que j'adore, donc forcément.
Il a fait
par les sentiments.
Ça victoire de Jean-Sébastien, petit moment.
La fièvre du jeudi midi, ah bah il est en train de la danser.
Donc ça veut dire que c'est 2 points partout. Imaginez que demain. C'est la dernière de la semaine. Demain, ça va être une boucherie. Allez, déjà aujourd'hui, on avait des travers de porc contre une côte de bœuf. Mais alors demain, j'ose même pas y penser. Didier, merci pour la Guinness, c'est sympa.
Je vais essayer les deux.
Oui, n'hésitez pas. Et puis revenez-nous pour nous en parler. On va vous offrir une montre RTL et puis un guide du routard de votre choix, offert par les éditions Hachette. Merci mille fois, Didier. On vous souhaite un très bel été et puis bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre.
Et continuez comme ça, c'est super agréable de vous écouter.
Merci,
c'est sympa.
Et puis à Louana, j'ai vu que vous aviez sur AZ là, une recette de panettone ricotta citron.
Oui.
Ça doit être une tuerie.
Eh bien, faites-la, même si on n'est pas sous Noël, c'est une recette qu'on peut faire.
Mais je vais vous faire une confidence, Didier. Oui. Louana elle-même est une tuerie. À très vite. 22h10 pour le défi frigo, pour jouer avec nous par téléphone ou par SMS 64 900 avec le mot régal. Dans un instant, l'ambassadrice du jour. Je suis ravi d'accueillir dans quelques instants dans cette émission Marie-Laure Aubry. À tout de suite.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Nous sommes en Touraine, en tout cas pour quelques minutes encore, et nous allons accueillir tout de suite Marie-Laure Aubry, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Ravi d'être avec vous tous.
C'est un plaisir partagé. Marie-Laure Aubry, si je fais de vous aujourd'hui, ce midi sur RTL, l'ambassadrice de toute cette région, c'est parce que c'est la vôtre. Si je vous érige en directrice de l'Office du tourisme de Touraine, comment est-ce que, en quelques arguments, vous invitez les touristes de passage à s'arrêter dans votre région ?
Oui, à s'arrêter et pas de faire que d'y passer. Hein, surtout.
C'est pour ça que je dis à s'arrêter carrément.
Oui, vous l'avez déjà dit depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est la Loire parce que ce fleuve est extraordinaire. Il donne l'âme de cette région d'ailleurs. C'est une espèce de langueur de la Loire qui correspond un peu au tempérament tourangeau. La lumière et puis cette Loire qui est porteur à la fois de châteaux, de monuments, de vignobles. Donc, il donne toute la richesse. Donc,
c'est une longueur,
bien évidemment,
une longueur
quand on vient en Touraine, on fait la Loire, on la fait en vélo. Ouais. On peut même maintenant, on est chez les pas navigables, on peut se faire un petit apéro sur une gabarre pour découvrir la Loire sur un parcours assez limité, hein, de 3-4 km. On peut faire du canoë sur la Loire. On peut aussi les montgolfières au-dessus de la Loire. Enfin voilà, il y a 1000 façons de découvrir la Loire.
Marie-Laure, la Loire, c'est tout ce coin de Touraine, c'est quand même aussi, on en a parlé depuis le début, c'est tout ce que faisait ton papa qui était cuisinier, c'est tout ce qu'on y mange, tout ce qu'on y déguste, tout ce qu'on y boit, c'est quand même aussi l'essentiel.
Ah bah bien sûr, c'est ça qui fait que... Alors, l'âme de Rabelais, là, hein, bien évidemment. Mais c'est... Voilà, c'est une terre de... C'est une terre de gourmandise. D'ailleurs, je signale que tu as oublié de parler de Mont-Louis dans les vins.
Oui, effectivement. Oui, tout à fait.
Parce qu'ils vont pas être contents. Les vignerons de Mont-Louis se sentent souvent très frustrés par rapport au Vouvray qui prend le pas.
Non, mais c'était dans mes notes, et puis c'est... Voilà, ça passe vite. S'il y a un goût tourangeau pour toi?
Alors, le goût traditionnel, vous en avez parlé, les rillons, les rillettes, mais c'est presque banal.
Bon, on est d'accord, mais les rillettes du Tour sont meilleures que les rillettes du Mans.
Ah bah ça, mais moi je suis entièrement d'accord à 100%.
Ah bah comme ça, évidemment. Vous serez deux à subir.
Ils sont différents.
Bien évidemment. Voilà. Et tu peux faire un petit... Tu connais la recette de l'œuf au plat au beurre de Gorée?
Moi je ne la connais pas.
Non, moi non plus.
Vous pouvez nous la dire?
Le Gorée, c'est ce qu'on appelle le cochon. Ben
oui.
Donc au lieu de mettre du beurre dans la toile, on met un peu de rillettes. C'est une recette de Jean Bardet.
Et voilà, ça
au beurre... L'œuf au plat au beurre de Gorée.
C'est un truc.
La Bechelle, en effet. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ressort aujourd'hui, qui était un peu oublié, comme la Géline de Touraine, comme le coq au vin de Chinon, tout. Et puis, c'est une région qui fait ressusciter l'étruve, qui fait ressusciter le safran. Enfin, voilà, on y trouve.
Ouais, le safran.
Et puis, bien sûr, les fromages. Hein, les fromages de chèvre, le Sainte-Maure, entre autres. Il y a aussi, bien sûr, le sel sur chair un peu plus loin et tout. Mais voilà, je veux dire. Du matin au soir, les rillettes au petit déjeuner, Sainte-Maure à 4 heures.
Ah, je vois bien, oui. Je vois bien.
Marie-Laure, tu as cité Jean Bardet. Je sais que tu es en train de faire à manger pour Jean-Claude Rigolet à midi.
Oui, c'est
autre grand chef.
Paris.
Ils vont manger quoi, monsieur et madame Rigolet, chez toi à midi?
Ils viennent ce soir. Donc oui. Là, j'ai interrompu la préparation d'un pudding aux poires du jardin.
Voilà.
Avec un peu de miel, un petit peu de liqueur dedans. Et puis, écoute, en entrée, ça va être un genre de flan d'aubergine avec une compotée de poivrons. Et puis, si j'avais eu la recette de Loana qu'elle a donnée tout à l'heure, plus tôt, je l'aurais fait.
La Géline.
Ouais. Etc. Ah. Bon, là, je vais faire une recette plus familiale, mais qui va être des filets mignons de porc avec une sauce à base de vinaigre.
Bon,
là, c'est bon.
De sauce anglaise, de vinaigre, de
concentré
de tomate, de calvados et de vin blanc.
Une heure,
c'est 50 minutes de train, Tour.
Si 50 minutes en TGV.
C'est-à-dire, si on part maintenant, on est à l'heure pour le dîner ce soir. Oui, on est là. On est là.
Oui, on y est.
En tout cas, je ne sais pas ce que vous en
pensez. C'est quand même bien moins bon que ce que j'ai mangé la semaine dernière chez Jean-Claude Rigolet.
On imagine. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Marie-Laure Grillon, ambassadrice de Touraine, elle est pas mal.
Ah oui, non, mais.
Elle est pas mal. Elle fait le job.
Vous savez qu'il y a une association des ambassadeurs et des ambassadrices de Touraine. Voilà, dont je fais partie.
Ah ben, on n'est pas surpris. On vous embrasse, Marie-Laure.
Merci.
Merci.
Je vous embrasse particulièrement, Jean-Seb, bien sûr.
Je t'embrasse.
On se demande bien pourquoi.
Oui, hein.
Je veux juste préciser que vous avez travaillé très longtemps.
Oh, ensemble, ben oui.
Et venez vite en Touraine, surtout.
On fera ça.
C'est ma deuxième maman.
Bel été, Marie-Laure.
C'est ta maman télé.
T'embrasse.
Et dans un instant, on vous emmène, Marie-Laure, restez avec nous parce que Jean-Sébastien, justement, va nous emmener au-delà des frontières de Touraine. Nous partons pour une destination très lointaine. Vous savez
quoi ? On va à Vienne.
On va en Autriche ?
Oui, on va.
D'accord, très bien. Bougez pas, à tout de suite.
11h-12h30. RTL vous régale.
Nous allons partir avec Jean-Sébastien pour l'Autriche, destination Vienne. Alors évidemment, chaque jour, mon obsession est un peu de comprendre le lien entre la destination de France et la lointaine. Et aujourd'hui, le lien qui unit la France et l'Autriche, en tout cas la ville de Vienne et la Touraine, ce serait la fameuse Bechelle.
Mais absolument.
Qu'est-ce que c'est ça?
Parce qu'en fait, la Bechelle tourangelle est un plat emblématique d'Édouard Ninion, qui était un grand chef cuisinier. Et c'est une spécialité, cette Bechelle, qui a voyagé, puisque Édouard Ninion préparait cette Bechelle à François-Joseph d'Autriche. C'est un plat dont il était fou, l'empereur. Et on en a fait, évidemment, c'est devenu, au fur et à mesure du temps et avec l'évolution, c'est ce qu'on a appelé le vol au vent. Mais la Bechelle tourangelle a été préparée à la cour d'Autriche, et c'était un plat absolument génial. Et c'est vrai que cette capitale de l'Empire des Habsbourg, pendant près de 7 siècles, est une ville qui est devenue historique par essence, qui a été profondément marquée par son rôle éminent qu'elle a joué au long des siècles et encore au XXe siècle. Et ce charme de Vienne, c'est cet étonnant télescopage entre l'histoire, la tradition et la modernité. Il y a une ambiance romantique presque désuète quand on se balade dans Vienne. C'est parfois même carrément démodé, mais ça cohabite avec l'audace, avec la créativité, avec une ambiance bourgeoise où toutes ces empreintes de l'histoire, de la puissance, de la gloire, bousculées depuis quelques années par la fantaisie et la légèreté, font la richesse de cette capitale autrichienne. Alors évidemment, il y a la Hofburg à découvrir, qui est le palais impérial, la résidence des Habsbourg pendant 6 siècles, avec en vedette les appartements de Sissi, Élisabeth d'Autriche. Il y a le trésor impérial qui est une collection qui ferait presque passer les bijoux de la reine d'Angleterre pour une sombre verroterie. Entre le berceau de l'aiglon... Non mais imaginez, vous avez le berceau de l'aiglon, 280 kilos d'argent massif. Vous avez une coupe en agate de 75 kilos en un seul bloc. La couronne de l'empereur Rodolphe, qui est un truc, je n'ai jamais vu une couronne pareille. C'est plus que fascinant. Et puis quand vous sortez de là, vous partez dans le centre historique de Vienne, qui concentre une architecture médiévale et baroque à nul autre pareil. C'est piéton, c'est enchanteur. Vous vous baladez jusqu'au Belvédère, qui est un ensemble de deux châteaux du 18e, où là, vous allez découvrir la Joconde autrichienne, qui s'appelle le Baiser de Klimt, qui est un des tableaux les plus fabuleux qui soit et les plus incroyables. Vous passez dans un café viennois, café historique, manger une Sacher-Tourte avec un chocolat et ensuite direction le Prater, le parc d'attractions le plus ancien et le plus fameux au monde, l'ancienne réserve de chasse créée au XVIe siècle par Maximilien II qui a été ouvert au public en 1766. Et c'est la grande roue, c'est Orson Welles, le troisième homme. En fait, Vienne s'est décalée. C'est vintage, c'est incroyable, c'est comme nous.
De l'Autriche prussienne à la Corse natale de Bonaparte. Demain, nous serons en Corse avec toute l'équipe d'RTL vous régale. On vous souhaite une très belle journée. Profitez-en bien. Rendez-vous demain, 11h. Vous écoutez RTL, il est midi et demi.